Geoffroy Defresne, vous êtes correspondant du journal Le Monde dans le Nord-Pas-de-Calais et ancien grand reporter au service des sports de la Voix du Nord. Votre dernier livre, Un siècle d'Olympisme, les JO de 1896 à nos jours, vient de paraître aux éditions de la Renaissance du Livre. Alors c'est un très bel ouvrage avec beaucoup de photos qui, à travers une véritable encyclopédie en images, deviendra vite une bible sur le sujet. On y trouve les réponses à toutes les questions que l'on peut se poser à la veille du plus grand événement sportif du monde qui aura lieu cette année à Londres et fera de la ville le temps des Jeux, le temple de cette nouvelle religion mondiale du sport. Geoffroy Defresne, faire l'histoire de l'olympisme, c'est d'abord faire l'histoire du sport, tout court.
Oui, d'ailleurs vous avez annoncé aujourd'hui philosophie, histoire et sport, et dans l'olympisme il y a un petit peu les trois. Bon, l'histoire ça paraît évident, la philosophie faudrait le justifier, mais bon...
Ah si, on peut, là on
peut. Je pense qu'on peut le faire. Donc oui, alors c'était quoi votre question du coup, parce que
La question c'était faire l'histoire de l'olympisme, c'est faire l'histoire du sport.
Oui, c'est faire l'histoire du sport, peut-être pas de tous les sports, mais l'histoire du sport en général, pas de tous les sports parce que tous les sports ne sont pas olympiques. Certains l'ont été et ont disparu des Jeux, d'autres sont arrivés sur le tard. Ensuite, il y a le sport professionnel qui a longtemps été absent des Jeux, qui maintenant fait partie... surtout pour le tennis, un peu moins pour le football parce que ça reste des très jeunes équipes. Hein. Mais oui, c'est l'histoire du sport, de son sexisme jusqu'à une certaine époque puisque les femmes sont arrivées relativement tard aux Jeux Olympiques. Cela dit, elles ont eu le droit de vote bien plus tard encore, hein, donc le sport n'est pas le premier fautif. Et puis, c'est l'histoire de la tricherie, du dopage, voilà, c'est des progrès de la pharmacie, de plein de choses qui ont accompagné le sport malheureusement, et l'arrivée de l'argent, la commercialisation, la médiatisation. Voilà.
C'est l'histoire de notre société finalement. Alors, par rapport aux femmes, je rappelle que Pierre de Coubertin, qui n'était pas vraiment l'humaniste que l'on peut parfois dire, disait à propos des femmes, aux Jeux Olympiques, le rôle des femmes devrait être surtout, comme aux anciens tournois, de couronner les vainqueurs.
voilà qui... Oui, bon, ça c'était Coubertin.
Hein. Bah oui.
Bon, on va pas lui jeter la pierre parce qu'il faut toujours raisonner en termes d'époque. Hein. C'est
oui,
un peu facile
sûr.
Pour nous. Comme je le disais, les femmes, les Françaises ont eu le droit de vote en 48, les Suédoises bien avant. Et finalement, même si Coubertin effectivement était opposé, vous avez les femmes qui sont apparues aux Olympiques de Saint-Louis quand même au début du XXe siècle. Et puis assez rapidement, tout de même, en tous les cas, avant la Seconde Guerre mondiale, les femmes étaient très présentes au jeu quand même.
Oui, c'était juste pour dire que Pierre de Coubertin, voilà, c'était un monsieur
oui.
bien de son époque, en tout cas.
Absolument, oui. Très, très de son époque, très conservateur, oui.
Alors, où et quand est née cette idée saugrenue de s'agiter et de suer pour le plaisir, c'est-à-dire de faire du sport ?
Oui, alors là, ce sont justement les historiens qui peuvent répondre, puisque on sait que ce qu'on appelle les Jeux de la Restauration ont été relancés au 9e siècle avant Jésus-Christ, mais il y avait déjà eu des formes de jeux auparavant. Donc on estime que c'est donc 900 ans avant Jésus-Christ qu'on relance les jeux en Grèce. Après, ça va péricliter, puisqu'ils finiront plus ou moins par disparaître. Il faut dire que les Romains, eux, s'y intéressaient pas beaucoup, sauf quand leurs empereurs ont envie de se distinguer à la course de chars, quoi. Donc, les historiens ne sont pas tout à fait d'accord sur les vraies prémices de l'olympisme. Bon, après, il y a bien sûr l'Olympie, hein, puisque les jeux sont restaurés là-bas, et cette légende l'Olympie, c'est pas qu'une légende, parce que le stade existe vraiment. Mmh. Moi, j'ai eu la chance d'assister au départ de la flamme en 2004. C'est toujours une cérémonie qui est quand même assez émouvante en un tel lieu. Même si en face de vous, vous voyez des snipers qui sont en train de surveiller la foule de la colline d'en face.
Oui, ça calme un peu.
Voilà, donc je pense qu'il n'y avait pas ça 900 ans avant Jésus-Christ. Mais c'est tout ça aussi l'histoire des jeux avant la restauration par Coubertin.
Alors là, on parle des jeux, mais si on parle simplement du sport pour le plaisir, vous citez dans votre livre une date 3500 ans avant Jésus-Christ en Égypte. On bougeait déjà.
Oui, alors là, vous faudrait vraiment appeler des historiens, hein, parce que.
Mais ça veut dire que c'est quand même finalement, il y a les jeux, il y a l'idée de se mesurer. Pour gagner des compétitions, avec des enjeux particuliers. Mais il y a aussi l'idée de faire du sport. Alors nous, on fait du sport le dimanche, mais je suppose que les Égyptiens faisaient du sport peut-être pour rester en forme.
Alors là, j'avoue que je ne sais absolument pas si on avait à l'époque déjà des cassettes pour faire de l'aérobic.
Vous n'avez pas rencontré d'Égyptiens de 3500 ans avant Jésus-Christ, ce que je vois.
Non.
Alors pour revenir plus près de nous dans le temps, le sport moderne est né en Angleterre. Et c'est peut-être pas un hasard, puisque c'est la patrie de la révolution industrielle et du capitalisme. Le sport est fortement lié à cet état de fait, à l'économie et à la révolution industrielle.
Oui, puisque vous me parliez de l'histoire de l'Olympisme, qui est celle de l'histoire du sport. Donc l'Olympisme, c'est aussi effectivement l'histoire des grandes nations, puisque au départ, donc, bon, Coubertin, lui, s'inspire clairement d'un modèle d'éducation qu'il voit en Angleterre, hein, et dont il veut faire un modèle de l'esprit olympique. Et il s'appuie sur les Anglais, sur les Américains, un petit peu aussi sur les Allemands et beaucoup sur les Suédois pour lancer tout ça. Après, quand on observe la façon dont l'olympisme se développe, c'est vrai que ça va rester très longtemps France, Angleterre et États-Unis. Moins l'Allemagne et moins le Japon à cause des deux guerres mondiales, tout simplement. Sinon, je pense que ces deux nations-là auraient accompagné de la même manière l'essor de l'olympisme et son essor aussi commercial. Bon, la Chine, c'est un petit peu différent, mais parce qu'elle arrive en 32, elle part et elle reviendra qu'en 84. Mais effectivement, après, quand on regarde ça, c'est notamment les États-Unis qui deviennent la puissance dominante. C'est eux qui ramassent le maximum de médailles, c'est eux qui organisent 8 fois les Jeux d'hiver et d'été au total depuis un siècle. Le français, c'est presque miraculeux que le français reste langue officielle des Jeux. Il a été souvent menacé. Il l'est aussi, faut une deuxième langue officielle de l'athlétisme et de la natation au niveau mondial, hein. Et régulièrement, on parle de l'abandonner, notamment pour la natation. Donc, c'est un sport. L'Olympisme est clairement dominé par les États-Unis, d'autant plus qu'économiquement maintenant, ce sont les networks américains et les grosses entreprises américaines qui sont les principaux bailleurs de fonds des Jeux.
Donc pas de surprise, on reste effectivement dans la mondialisation. Pour revenir à l'éducation physique, qui a des origines militaires, c'était pas tout à fait désintéressé de faire du sport, puisque un esprit sain dans un corps sain, c'est bien, mais c'est pour le mettre au service de la patrie.
Oui, d'ailleurs, quand Coubertin fait son fameux discours de 1892, je crois, à la Sorbonne, il parle de restauration de l'athlétisme. Hein, donc, l'athlétisme, c'est évidemment pas le mot, le sport tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'est le côté athlétique qui ressort. Et puis, même quand l'athlétisme est une discipline olympique au début du XXe siècle, c'est une discipline qui inclut la préparation militaire. Voilà, c'est pas l'athlétisme tel qu'on l'imagine aujourd'hui. Il y a des épreuves, bien sûr, de course, de lancer et de saut, mais il y a aussi la préparation militaire. Les deux vont être étroitement liés encore pas mal d'années au début du XXe siècle.
Oui, et d'ailleurs, Pierre de Coubertin pensait qu'il fallait un peu muscler les jeunes Français pour affronter les Allemands.
Oui, mais ça, c'est encore une fois. Enfin, oui, alors attention, parce que Coubertin, en même temps, a une fin de vie où il était très proche quand même d'Hitler, parce qu'il a eu il a terminé sa vie avec une bourse fournie par Hitler. Oui, mais il y avait cet esprit-là, effectivement, à l'époque, de préparer aussi bien ses armes que ses muscles, puisqu'on est dans une situation de conflit. Constamment, mais encore une fois, Coubertin, lui, son modèle, c'était l'esprit d'université anglaise, des écoles anglaises, où il fallait toujours associer le sport aux études. Bon, ce qui s'est maintenu d'ailleurs là-bas et ce qui s'est maintenu dans les universités américaines, même si ça peut être un peu dévoyé, parce que maintenant, on pouvait avoir des bourses universitaires aux États-Unis en ayant surtout des muscles, plus que parfois des neurones.
Et puis les neurones, ça se muscle aussi d'ailleurs. Ouais. Comment vous avez travaillé pour faire ce livre et réunir toute cette documentation? Vous avez fouillé les archives du CIO?
Alors, il y a une partie, vous l'avez souligné, photo, qui est très importante. Donc j'ai travaillé avec un documentaliste. Ça a été assez compliqué parce qu'il fallait retrouver les droits de photos très anciennes, puisque des agences ont disparu, ont été rachetées. Vous avez la plupart des vieilles agences de photos comme Magnum ou Keystone, qui n'existe plus par exemple, dont on a retrouvé les photos. On a conclu des accords avec le Comité olympique français en numérisant leurs photos qui n'avaient jamais été numérisées et en échange, on en avait les droits gratuitement. Il y a eu des photos un peu moins par le musée olympique, mais c'est surtout les agences internationales de presse qui nous ont fourni des photos moyennant des contrats. Alors apparemment, moi je ne savais même pas, certaines photos étaient inédites. C'est le quotidien L'Équipe lors de la première édition du livre qui l'a souligné dans L'Équipe magazine. Donc voilà, il y a 700 photos maintenant et c'est vrai que rien que ces photos retracent assez bien, parce que c'est des photos que des très grosses légendes, retracent assez bien l'histoire de l'olympisme.
Oui, et puis avec les photos, il y a les palmarès aussi.
Oui, les palmarès, j'aimerais bien qu'on les améliore au niveau de leur typographie, mais là c'est un petit détail d'édition.
Mais l'important, c'est qu'ils sont là.
Oui, alors ce qui manque peut-être, c'est le classement des médailles, parce que les gens en général, ils sont très intéressés. Alors finalement, peut-être que c'est bien, comme ça, il n'y a pas de nationalisme. Mais finalement, on se rend compte que les gens sont quand même attachés à regarder qui est-ce qui arrive en tête des médailles à chaque fin de jeu. Une petite colle que je peux poser, que je peux vous poser, ce serait de savoir quelle est la seule nation qui a obtenu une médaille à tous les Jeux Olympiques depuis l'origine.
Ben, je n'en ai pas la moindre idée, mais je pourrais éventuellement me dire que c'est les Américains.
Bah oui, c'est pour ça que c'est un piège, parce que en fait, non, tout simplement parce que les Américains ont boycotté les Jeux de 80 à Moscou, n'ont pas eu de médaille. Les Français sont les seuls à avoir participé à tous les Jeux depuis l'origine, sauf officiellement à ceux de Saint-Louis, parce que Coubertin, donc en 1904, parce que Coubertin voulait Chicago et n'avait pas voulu aller avec une délégation française à Saint-Louis, mais il y avait un Français vivant aux États-Unis qui s'est inscrit au marathon et qui a obtenu une médaille. Donc la France est le seul pays à avoir obtenu une médaille à tous les Jeux Olympiques.
Bon, alors on va faire un petit cocorico du coup, mais ça je ne le savais pas du tout. Qui dit Jeux Olympiques dit construction d'un stade. On voit pas mal de photos de stades dans votre livre. À votre avis, quels sont les stades les plus marquants, les plus intéressants, ou ceux que vous préférez finalement?
Oui, c'est intéressant de constater que les Jeux Olympiques... Alors, on s'est intéressé aux villes et au rapport entre les villes et les Jeux Olympiques à partir de 1960 à peu près à Rome. Donc, ça devenait important pour une ville d'avoir les Jeux parce qu'on l'a montré. Et du coup, la ville en faisait une opération aussi économique et touristique. Donc, je pense que c'est surtout à partir de... Alors, il y a le stade olympique de Los Angeles qui est magnifique en 1932, mais c'est le Los Angeles d'Hollywood. D'ailleurs, c'est en 1932 qu'on crée les premiers podiums, et c'est pas par hasard, c'est parce qu'on était à Hollywood. Donc, le Coliseum de Los Angeles, qui existe toujours, est un stade magnifique par rapport à l'époque. Mais dans les stades plus récents, Barcelone fait un gros effort en architecture pour construire ses stades. Et puis, ça continue à se développer. Et moi, j'aime beaucoup les installations olympiques. Par exemple d'Athènes, parce que ce sont les grands architectes internationaux qui ont commencé à construire les stades, comme Calatrava par exemple. Donc ça fait vraiment des très beaux stades. Le nid d'oiseau d'Herzog et de Meuron à Pékin est magnifique. Là on a un peu un retour en arrière à Londres, mais pourquoi pas économiquement et écologiquement, parce que Londres a choisi de faire des jeux à un coût réduit au niveau des équipements, c'est-à-dire que les équipements ne sont pas trop coûteux et seront surtout réduits à une forme plus petite. Après, la piscine va diminuer de volume, le stade va aussi diminuer de volume. Et du coup, architecturalement, quand on regarde les installations de Londres, ce n'est pas très beau par rapport à ce qu'on a vu à Pékin, à Sydney ou à Athènes.
C'est la fin de l'ère du gaspillage.
Peut-être. Bon, en même temps, construire un beau stade, si on a l'intention de le garder, ce qui est en train de se faire à Lille actuellement, c'est aussi un objet. Moi, j'aime beaucoup l'architecture, donc je trouve que voilà, ça en fait partie. Hein, ça fait travailler nos esprits, nos ingénieurs, nos scientifiques. On fait des choses magnifiques. Et puis, si le stade, on arrive à le rentabiliser plus tard, pourquoi pas? Le tout, c'est de s'assurer de faire un équipement à la bonne dimension par rapport à la métropole et à la future utilisation. Quoi.
Oui, ça c'est vrai que c'est un autre problème, assez épineux parfois, ce me semble, dans la région. Alors, ouais. Les stades, c'est pour accueillir un spectacle finalement, puisque le sport est un spectacle, mais c'est aussi un rituel. Et dans ce rituel, c'est les Jeux Olympiques qui constituent un moment clé. Il n'y a pas plus fort que les Jeux Olympiques.
Oui, c'est le premier événement médiatique dans le monde avec la Coupe du Monde de football. Donc, c'est pour ça aussi que les télévisions s'y intéressent et qu'il y a autant d'argent qui arrive des télévisions. Hein, les télévisions qui sont arrivées au jeu à partir de 1960, ça s'est développé. Donc, Alors certes, c'est des milliards de téléspectateurs, notamment les cérémonies d'ouverture et de clôture. Et c'est assez logique, puisque quand vous regardez le nombre de nations inscrites au Comité international olympique, il y en a plus de 200 et il y en a plus qu'à l'ONU. Donc Coubertin au moins réussit ça, à réunir plus de nations. D'ailleurs, au départ, lui, ce qu'il voulait faire, c'était une société concurrente de la Société des Nations. Donc il voulait prouver quelque chose par le sport. Il a réussi d'une certaine manière, puisque c'est vrai qu'il y a au moins cette trêve-là, puisqu'il y a plus de nations dans l'olympisme qu'à l'ONU.
Puis il y a peut-être réussi aussi en termes de budget.
Oui, alors je pense qu'il n'aurait pas imaginé ce qu'allait devenir le jeu, puisque lui, il était à fond pour l'amateurisme. Il a traîné ça avec les présidents de comités olympiques qui lui ont succédé. Bon, après lui, c'est Baillet-Latour, c'est un Français, c'est un noble. Après, on a un Suédois qui est aussi un noble suédois. Et après, on a deux Américains. On a Avery Brundage et... un Américain, enfin deux Anglo-Saxons, Avery Brundage et Lord Kelanin après. Donc, qui eux étaient toujours pour l'amateurisme. Hein. Donc, après, c'est Samaranch, l'Espagnol, hein, qui va introduire beaucoup plus l'argent, les premiers gros sponsors, presque tous américains ou japonais, télévision notamment. Puis ça va être développé en même temps, d'ailleurs, que l'athlétisme qui crée ses championnats du monde en 83. Helsinki, avec Primo Nebbiolo l'italien. Donc l'athlétisme et l'olympisme, en même temps, se lancent dans une course effrénée à l'argent via les gros sponsors et les télés.
En termes de budget, on espère en tout cas que l'Angleterre, après les JO, ne sera pas dans l'état de la Grèce après. Mais bon, c'est juste...
Oui, il y a eu des petites polémiques, parce que c'est vrai que quand les Anglais ont obtenu les Jeux, la crise est arrivée dans la foulée, et du coup, on s'est demandé s'ils allaient s'en sortir. Bon, ils ont choisi, comme souvent les villes maintenant, de redynamiser un quartier. Bon, pour eux, c'est l'East End, donc d'en profiter pour faire des travaux dans un quartier précis. Apparemment, ils vont s'en sortir. Hein. Jusqu'à présent, le gros bouillon olympique, c'est Montréal hein, en 76. Mais c'était justement le virage où l'olympisme prenait une dimension très, très importante et où l'argent n'arrivait pas encore assez dans les caisses via les télévisions et les principaux sponsors. Et justement, c'est Samaranch qui a créé le club des 5 partenaires principaux qui a amené beaucoup d'argent. Des partenaires exclusifs.
Mais il a fait son G5 en quelque sorte.
Oui, voilà. Et plus les télés, encore une fois, c'est énorme. Et c'est ce qui explique d'ailleurs que c'est eux qui influencent maintenant les sports, même les règles du sport, pour raccourcir certaines épreuves comme le volleyball, par exemple. Changer aussi les horaires, hein, puisque les finales de natation à Pékin ont été faites le matin pour satisfaire le public américain. C'est NBC qui a imposé les horaires des finales de natation à Pékin.
Hein. Et voilà, et du coup, les Chinois se sont levés plus tôt. Vous serez à Londres cet été ?
Alors, je vais y faire qu'un passage, hein, puisque maintenant, je ne suis plus journaliste de sport, comme vous l'avez dit. J'ai d'autres livres en préparation et je serai en train de travailler à autre chose cet été. Donc, si je vais à Londres, ça sera que pour l'athlétisme, mais brièvement.
Mais donc, vous avez quand même quelques conseils pour profiter au mieux des Jeux de Londres, vous qui avez l'habitude de ce type de
manifestation. Déjà, les premiers conseils, c'est qu'il est trop tard, il fallait s'y prendre à l'avance.
Bon, voilà.
Parce que c'est quand même relativement coûteux de se loger à Londres. Faire un aller-retour dans la journée, même si c'est rapide, c'est coûteux aussi.
Oui.
Donc, il faut avoir des amis à Londres pour vous loger et puis avoir acheté des billets depuis longtemps ou alors se rabattre sur les autres petits sports. Mais ce n'est pas plus mal parce que moi, le gigantisme des sports pourtant que j'ai beaucoup suivi comme l'athlétisme et la natation au jeu et surtout l'athlétisme m'agace un peu et j'ai souvent pris plaisir à aller voir les autres sports où c'est plus tranquille, on approche de plus près les sportifs qui sont souvent d'ailleurs plus sympas et plus accessibles dans des sports dont on parle que tous les 4 ans, hein. L'aviron, ouais. Même la boxe.
Tout à fait, ça peut être des découvertes, mais on peut tout simplement aussi se promener dans la ville au moment des Jeux. Car,
oui.
Alors, ça coûte plus cher, c'est vrai, mais je me rappelle, j'étais à Athènes en 2004 de façon tout à fait fortuite. Je n'avais pas voulu aller à ce moment-là, mais c'était les Jeux. Et l'ambiance dans la ville, dans les cafés, dans les restaurants, c'était autre chose qu'Athènes d'habitude. Donc on peut voilà, se dire, aller respirer l'air londonien, l'air des Jeux Olympiques. Alors, Geoffroy Defresne, merci. Je rappelle le titre de votre ouvrage, « Un siècle d'olympisme, les JO, de 1896 à nos jours », qui vient de paraître aux éditions de la Renaissance du Livre.